bien bonjour. On veut vous saluer. Et comme le soulignait Alex, l'été, hein, c'est le temps, on se promène un peu. Il y a plusieurs personnes ici qui sont au camp des boulots cette semaine. Et on veut remercier le Seigneur et on veut vous saluer en passant. Si vous êtes en visite ici, j'ai retrouvé un de mes bons copains, je ne sais pas où il est, là, mais Sébastien, ici dans la région pour mariage. Là. Salut! Il se faisait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu. On était ensemble à Longueuil à l'époque, plusieurs années, en 2008, je pense, 2009, avant ça. J'ai bien connu la famille. Alors, on est en visite, hein, comme ça, l'été. Et il y a des gens qui visitent ailleurs et tout ça. On veut vous saluer. Il y a des nouvelles personnes aussi qui s'ajoutent. J'ai rencontré un charmant couple là, qui s'ajoute à l'Assemblée. Donc, on veut vous saluer. On veut saluer ceux qui nous écoutent aussi sur Internet. On est toujours agréable d'entendre vos nouvelles, recevoir les courriels. Merci pour cette semaine, pour « J'aime mon voisin », vraiment une bénédiction. J'ai entendu des beaux témoignages déjà, mais je vais laisser Dominique, lorsqu'il va revenir, nous raconter un peu son témoignage. Alex a fait jouer un clip vidéo cette semaine pour leur lave auto. C'est vraiment bien, c'est édifiant. Alors, j'ai entendu déjà des belles choses. Juste une petite nouvelle, une petite annonce. L'équipe d'entraide a besoin d'aide, a besoin de bras pour aider certaines personnes dans les déménagements. Donc, si vous voulez aider là-dedans, ce sera sporadique, ici, de temps en temps. Vous pouvez juste donner votre nom et téléphone au kiosque de l'information à l'entrée. Alors, on apprécierait beaucoup. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et, c'est un beau ministère. Il y a quelques années, en 2009, ça a été une grosse année pour nous autres, pour Lise et moi, en 2009, parce que 2009, on arrivait ici dans la région de Gatineau. On ne connaissait pas énormément, on était venus à quelques reprises, mais on ne connaissait pas beaucoup. Ça a été une grosse année de transition, mais ça a été une grosse année de transition aussi pour ma sœur, Carole, qui était célibataire pendant plusieurs années. Elle s'est mariée avec un gars d'ici, à Gatineau, dans la région. Et le mariage s'est fait, c'est très intime, on n'était pas nombreux, le mariage s'est fait à l'hôtel Hilton. Et ils sont vraiment payés à la traite, là. Et puis, ils nous ont payés à la traite aussi, on était vraiment gâtés. Et puis, on est allé là. Moi, je ne connaissais pas ça. Je n'étais jamais allé de ma vie à l'hôtel Hilton. Et puis, on était dans la cour, et c'est là que ça s'est fait, le mariage. Et puis, le souper, c'était au restaurant Le Baccarat. 5 diamants, mon ami. Et ma soeur nous a vraiment gâtés. Et puis, on était dans une place, c'est une salle privée. À quelque part dans le Baccarat, parce qu'il y a le restaurant, mais il y a une place privée en arrière, et 8 services. Excusez, pardon. Et on était vraiment gâtés. Puis il y avait une vue magnifique. C'était assez haut, et puis là, tu as une grosse vitre, là, je pense que c'était jusqu'au plancher, puis tu vois tout le lac, le mid, tout ça. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et il y a des restaurants comme ça que tu rentres là, puis c'est éblouissant de voir la beauté, comment c'est magnifique. À travers le monde, des magnifiques restaurants. Et puis, mais vous savez, quel que soit le restaurant qu'on peut aller, quel que soit le festin, quel que soit l'endroit où on va aller, ça ne sera jamais comme le grand festin que Dieu prépare. Dieu est en train de préparer un festin incroyable. Ça va être le festin des festins. Et ça va être tout à fait exceptionnel. Il n'y a rien qui se compare à ça. Dieu prépare un méchant party. Tu vas-tu y être? Hein? On va y être. Et Dieu prépare un méchant party. Et tu sais qu'est-ce qui arrive hein, quand on envoie des invitations? Tu espères avoir des réponses. Et une des choses qu'on va voir, c'est quoi? Répondre, s'il vous plaît. Alors, Dieu nous lance une invitation, puis il espère que les gens vont répondre, vont dire « oui, j'y vais ». C'est toute une invitation. Eh bien, on est en train de regarder une série de messages qui portent sur les paraboles de Jésus. Et si vous voulez, si vous venez juste de vous joindre à nous, il y a toute la série des paraboles qui se trouve sur notre site internet, église-le-sentier.com. Et d'ailleurs, il y a d'autres messages qui se trouvent là, d'autres discours. Si vous venez juste vous joindre à nous, les paraboles, en fait, les paraboles, ce sont des courtes histoires, mais qui sont très profondes. Ils ont tous un message qui est à l'intérieur des proverbes. Dieu a raconté plusieurs paraboles pour nous aider à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Luc 13, par exemple, Jésus va poser une question. Et dans Luc 13, voici ce qu'il va dire. Il va dire « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi le comparaîtrais-je? » En d'autres mots, il va prendre des histoires de la vie courante pour en faire des leçons d'objet, en quelque sorte, afin de révéler, nous aider à comprendre et à connaître c'est quoi le royaume de Dieu. Qu'on puisse essayer de goûter un petit peu, à toucher, comprendre le royaume de Dieu. Par exemple, une expression qu'on va voir très souvent, c'est « le royaume de Dieu ressemble à ». Et constamment, Jésus va faire ces comparaisons-là. Par exemple, dans Luc 13, 19, qu'est-ce qu'on lit? On lit « le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin ». Et qu'est-ce qui arrive? Ça pousse. Le royaume de Dieu prend de l'ampleur. Dans Luc 13, verset 21, on continue. « Le royaume de Dieu ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » En d'autres mots, le royaume de Dieu va grandir. Plusieurs personnes viendront à Jésus-Christ à travers l'histoire. Et même encore aujourd'hui, on vous l'a déjà annoncé, plus de 3000 personnes, on pense à peu près, on estime que 3000 personnes viennent à Jésus à toutes les heures à travers le monde entier. Ça, mon ami, c'est l'expansion. 72 000 personnes feraient profession de foi chaque jour. Alors ça grossit. Matthieu 13, 44 continue en disant « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. » Celui qui le découvre, découvre un trésor. Verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » Et il trouve une perle tellement magnifique que les autres choses deviennent secondaires. Et c'est ça, lorsqu'on découvre Jésus-Christ, c'est tellement glorieux que tout ce qui reste dans le monde, même si c'est beau, ça devient secondaire à comparer de l'ampleur, de la beauté de Jésus. On pense au verset 47, Matthieu 13, 47, qui dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer en ramassant et ramasse des poissons de toute espèce. » Il y a vraiment toute une allusion ici avec les Juifs et les non-Juifs et tout ça. Il y avait de l'animosité. Et ce que Jésus est en train de dire, que le royaume de Dieu, il va y avoir des gens de toutes les nations qui vont venir à Jésus-Christ. Et on pourrait continuer. Après tout, on pense qu'il y a à peu près entre 30 et 70 paraboles. On ne s'entend pas trop sur les chiffres. Ça dépend du comptage et tout ça, comment on fait ça. On peut dire qu'il y en a à peu près 40. D'autres pensent 27. Mais il y en a plusieurs. Et chaque parabole a une intention. On appelle ça une intention théologique. C'est le but est vraiment de nous révéler quelque chose sur le royaume de Dieu. On pense à Matthieu 18, 23 qui continue en disant « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Matthieu 20, 1 « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. » Matthieu 25, 1 « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Alors, voyez-vous l'expression qu'on va retrouver très souvent, « Le royaume des cieux est semblable à » Constamment, chaque parabole est une histoire qu'il cherche à nous aider à comprendre un aspect du royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, on veut regarder une autre parabole qui va nous aider à comprendre mieux le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui a raconté cette parabole. Il veut nous faire découvrir un aspect très riche, très approprié du royaume de Dieu. Et Jésus va comparer le royaume de Dieu à un festin, à un banquet, à un méchant party, full cool. Je ne sais pas si les ados disent encore ça. J'étais un petit peu, j'ai pas vu mes ados. Ça fait un petit bout de temps. Là, ils s'en viennent cet été en vacances chez nous. Je vais me mettre à jour dans le vocabulaire là, mais je ne sais pas si on dit encore ça, full cool là, chez les jeunes. Mais en tout cas, le royaume des cieux est un grand banquet, mais ce n'est pas le genre de banquet auquel on peut s'attendre. C'est un banquet pour les humbles. C'est un banquet pour les humbles. J'aimerais vous inviter à tourner dans cette histoire où Jésus raconte cette parabole de ce grand banquet que Dieu prépare, qui se trouve dans Luc, chapitre 14, versets 12 à 24. Luc 14, 12 à 24. Vous êtes là? Luc 14, verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. » car ils ne peuvent pas te rendre la pareille. En effet, cela te serait rendu à la résurrection des justes. » Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table avec Jésus dit ceci. Il dit ça à Jésus. « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur apporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, incite-leur à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Dans le contexte, dans le début du chapitre, on apprend que Jésus s'est fait inviter par un des chefs des pharisiens. Il faut savoir que les pharisiens étaient assez à l'aise. C'était habituellement des rabbins. Ils étaient des gens d'affaires. Ils étaient assez en moyens. Et cet homme-là, un des chefs des pharisiens, invite les gens, fait tout un festin, invite du monde et invite aussi Jésus. Mais il faut savoir dans le contexte, c'est dans le fond, la raison pour laquelle ils invitent Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'intérêt au message de l'Évangile, c'est parce qu'ils veulent piéger Jésus. C'est ce qu'on voit dans le contexte. Alors que c'est le jour du sabbat, Jésus va faire un miracle, une guérison. Ils vont lui reprocher de le faire. Alors Jésus va raconter une parabole. Et c'est suite à ça que finalement, il y a cet homme qui va intervenir et va faire une déclaration assez forte, qui se trouve au verset 15, qui dit ceci, « Après avoir entendu ces paroles, en d'autres mots, après avoir entendu les paroles de Jésus-Christ, un de ceux qui était à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » C'est toute une déclaration, ça, là. « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est toute une affirmation que le monsieur vient de faire. D'ailleurs, c'est sûrement a été inspiré lorsqu'il a dit ça. Maintenant, quand tu regardes ça, quand tu penses à un banquet, quand tu penses au festin, là, qu'est-ce qui arrive quand tu commences, quand tu es invité à un banquet puis tu vas au banquet? Pendant les heures où tu participes au banquet, tu mets de côté tout ce qui te préoccupe de la vie. C'est une soirée de fête. C'est festif, c'est la fête, c'est joyeux, c'est un party. D'ailleurs, même si tu es triste, s'il y a des choses difficiles qui se passent dans ta vie, tu vas comme mettre ça de côté dans la soirée, puis là, tu as vraiment du fun. Tu lâches ton fou, tu as vraiment du plaisir. Alors, pendant un moment, tu vas vraiment te réjouir. Tu vas avoir du bon temps et tu n'auras pas faim non plus parce qu'on va te nourrir. Tu vas vraiment être gâté là-dessus. C'est un banquet, c'est un festin. Et tu vas avoir du plaisir. Surtout si c'est un mariage organisé par Robert et Lise Lalonde, puis ça donne que Matthew Farley, c'est le maître de cérémonie. Je peux te garantir que tu ne t'ennuieras pas. Et ça va être encore plus joyeux, plus assez impressionnant si Eric embarque sur la piste de danse. Ah bien là, par exemple, je peux te dire qu'une affaire, tu ne t'ennuieras pas. Hey, ça, c'est vraiment... Hey, j'ai pris un petit film de ces gars-là, Eric puis Mathieu, qui dansent. On va vous le montrer. Non. Vous viendrez me voir après si vous voulez voir ce petit clip-là. J'ai tout ça, mon ami. Je ne vous chargerai pas cher. Je vais vous montrer ça. Mais c'est ça qui arrive quand tu t'en vas dans un banquet, quand tu t'en vas dans un festin. Pour un moment, le moment du banquet, tu oublies tes souffrances, tu oublies ton épreuve. Tu es joyeux, tu es heureux, tu vas être nourri. Donc, ta faim va être satisfaite pour le moment que le festin dure. Et là, vraiment, c'est le bonheur. Dans cette soirée-là, c'est le bonheur. Et c'est ça qu'on recherche, n'est-ce pas? On cherche le bonheur. On veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Je ne connais pas personne, moi, qui dit, moi, je ne veux pas être heureux. As-tu déjà entendu quelqu'un dire ça? Il n'y a jamais personne qui dit ça. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que l'Université de Yale a fait un cours en automne dernier, il y a quelques mois, a fait un cours, la session, pas de printemps, mais la session d'hiver, a fait un cours et ils ont présenté un cours. Le cours s'appelait « Psychologie et la bonne vie ». En d'autres mots, c'était un cours sur le bonheur. Comment être plus heureux, comment être heureux. Et c'est phénoménal. Ils ont eu un record d'inscription parmi les étudiants du bac. Ils n'ont jamais eu un cours avec autant d'inscriptions d'étudiants pour aller là. Pourquoi tu penses? Les gens veulent savoir comment être heureux. D'ailleurs, le quart de tous les étudiants au bac de l'Université de Yale se sont inscrits à ce cours-là. Quatre ans plus tôt, l'Université de Yale a divulgué un rapport révélant que la moitié des étudiants inscrits au bac, là, inscrits dans le programme du bac, la moitié ont fait appel au service des soins de santé mentale à l'Université de Yale. Les gens veulent être heureux, ils ne savent pas comment l'être. Ils pensent d'avoir trouvé comment, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, les experts, c'est le professeur a dit, le professeur de ce cours-là, a dit, du nom de Laurie Santos, les experts en psychologie de Yale tentent de montrer que la recherche scientifique actuelle présente a révélé que ce que les étudiants pensent va leur apporter le bonheur, comme avoir des bonnes notes, avoir une belle job, avoir un bon salaire, et tout ça. Tout ce qu'on pense, là, ce que les gens vont parler, « Ah, j'aimerais gagner à la loto, etc., etc. Je serais millionnaire, je serais tellement heureux, tout ça. » Eh bien, les recherches les plus récentes, scientifiques, révèlent que ce n'est pas vrai pantoute. Absolument pas. Et là, ce professeur tente d'expliquer à ses étudiants que ça ne marche pas. Tu ne seras pas heureux à la recherche de ces choses-là. Ça ne procure pas le bonheur, ça. Maintenant, apparemment, le professeur Laurie Santos, qui a déclaré au mois de janvier dernier, dans le New York Times, a dit que la recherche, et à peine 10 ans, on n'était pas là. On ne pensait pas comme ça. Les experts, les scientifiques ne pensaient pas ça. Mais aujourd'hui, avec la science qui a avancé, les recherches, etc., on arrive à la conclusion qu'on sait maintenant que ce que nos intuitions nous disent de « si j'avais ça, je serais heureux ». Tu sais, ton intuition, si je gagnais à la loto, je serais tellement heureux. Si je gagnais 30 millions, je serais tellement heureux. Ça, c'est ton intuition, ça. Ça te donne une impression que tu serais heureux. Eh bien, là, Laurie Santos arrive à la conclusion que tout ce que nos intuitions nous font croire sur ce qui va nous procurer le bonheur est tout à fait faux. C'est faux, tout ça. Regardez maintenant ce que l'homme va dire à Jésus. Où se trouve le bonheur? Verset 15. « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir dans le monde. Il y a un paquet de plaisirs. Plein de plaisir dans le monde. On est heureux d'avoir des enfants, heureux d'avoir... C'est sûr. Mais le bonheur qui dure, qui est profond, qui est solide, se trouve vraiment lorsque tu fais partie du royaume de Dieu. Voici ce que ça dit. Ça dit, cet homme qui dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, le bonheur se trouve lorsque tu fais partie du royaume de Dieu. Et Jésus va raconter une parabole, et à travers sa parabole, ce qu'il est en train de dire, c'est « Amen ». Tu as tout à fait raison. Exact. Ce que cet homme est en train de dire, c'est qu'un jour, au dernier jour, lorsque Jésus va revenir, lorsque le royaume de Dieu va prendre toute sa splendeur, sa réalisation, lorsque Jésus va revenir, là, ce sera le dernier festin. Mais ce festin-là sera le festin des festins. Sais-tu pourquoi? Parce que ta faim va disparaître à jamais. Ce qui te manque dans ta vie, cette carence, ce qu'il y a dans ton cœur qui semble manquer quelque chose, là, et ça va disparaître. Vois-tu, lorsque tu es dans un banquet, ta faim disparaît pour les heures du banquet, mais tout revient après. Mais le festin, et c'est le message ici qui est transmis dans ce passage, c'est que le festin que Dieu prépare va te nourrir, va nourrir ton âme pour l'éternité. En plus, ta tristesse qui part un peu temporairement par un festin va disparaître pour toujours. Il n'y aurait plus de douleur, plus de souffrance, plus de larmes lorsque Jésus va revenir. Et c'est suite aux paroles de cet homme-là que Jésus va donner une parabole. Et par sa parole, il est en train de dire à ce jeune homme, tu as tout à fait raison, le royaume des cieux est un festin. Maintenant, pourquoi Jésus, dans son premier miracle, c'était quoi le premier miracle de Jésus? Guérir un malade. Ressusciter un mort. Faire du vin. Non, mais pensez-y, là. Faire du vin. De tous les miracles que Jésus aurait pu choisir, pourquoi choisit-il? Puis en passant, il faut savoir que les miracles sont un signe. C'est un sermon, les miracles. Chaque miracle est un message, c'est un signe qui nous révèle quelque chose sur Jésus-Christ. Par exemple, Jésus va multiplier les pains, il va nourrir 5000 hommes. Mais juste après, ou juste dans le même contexte, Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». Voyez-vous? Les miracles sont un signe, sont un message. Maintenant, quel message Jésus veut-il nous transmettre en choisissant pour son premier miracle, de tous les miracles qu'il aurait pu faire, son premier, pendant sa première semaine, à la fin de la première semaine de son ministère, il choisit de multiplier de l'eau et faire du vin. En d'autres mots, le premier miracle que Jésus fait est de changer un party médiocre et en faire un party wouh! Full cool. Vous voyez? C'était le meilleur party que le monde de cette région-là a connu. Parce que celui qui était le dirigeant était même surpris, celui qui organisait le souper, était même surpris de voir la qualité du vin. Il dit, écoute, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Là. Tu donnes du bon vin à la fin, habituellement, tu donnes le bon vin au début, puis là, à mesure que les gens sont un peu gorlots, ben la qualité du vin, c'est un peu moins important. Là, tu as gardé le bon vin, le meilleur. Puis ça, c'est intéressant de voir ce gars-là qui est un expert, qui juge la qualité du vin. Moi, j'ai bien la misère. J'écoute, les vins sont tous barrés pour moi. J'ai bien la misère. Je ne vois pas la différence. Il y en a qui sont là. Je sens. Oui, je sais ce qu'il y a là-dedans. Il y a ça pour tout te décrire, puis tout ça, tu sais. Hey, il y a des experts qui sont bons. Tu leur demandes, puis effectivement, ils mettent le doigt exactement sur la recette. Moi, je ne suis pas là. Jésus est en train de nous révéler quelque chose. Là. Jésus est en train de nous révéler toute une leçon. Il est en train de nous dire, sais-tu quoi? Le royaume de Dieu, là, c'est un banquet, c'est un festin. Mon ami, c'est le plus beau party, le meilleur party que tu auras jamais. C'est fantastique. Il dit, c'est ça que Jésus est en train de nous laisser. Là. Maintenant, il y a des messages derrière ce miracle-là, évidemment, parce qu'il faut savoir que les prophètes de l'Ancien Testament, comme Amos, Néhémie, Osée annonçait que l'ère messianique, lorsque le Messie allait venir, le vin coulera en abondance. Et qu'est-ce que Jésus est en train de montrer ici, justement? Que l'ère messianique est arrivée et que tout ce qu'il offre, tout ce qu'il fait est fort supérieur, infiniment supérieur que tout ce que tu peux trouver sur la terre. C'est là qu'il est en train de nous enligner, là. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire par son miracle du vin. Hey, écoute, c'est tout un miracle. Là. On parle, là, Jésus a fait, savez-vous combien de bouteilles de vin? Là? Tu t'en vas à SAQ, là, bouteille, là, 700, c'est quoi, 750 millilitres. Là? Il a fait l'équivalent de 1000 bouteilles de vin, la grosse affaire. Là. Qui se vendrait aujourd'hui quoi? Peut-être 1000 piastres, peut-être 5000. J'ai déjà vu une bouteille de vin, 15 000 piastres. Bien, il a fait l'équivalent de 1000 bouteilles de vin. Ça, c'est l'équivalent de 83 caisses de bouteilles de vin. Mais là, tu rentres à la SAQ, j'aimerais avoir 83 caisses de bouteilles de vin. C'est ça que Jésus a fait. Hey, c'est tout un miracle. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Viens à moi. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Viens à moi, tu vas voir. Tu ne trouveras jamais ce que moi je t'offre. Je suis infiniment meilleur que tout ce que tu peux trouver dans le monde. Infiniment meilleur. Et ça, c'est le message que que Jésus est en train de dire. Il y a quelqu'un qui l'a dit comme ceci. Il a dit, il a mis des paroles dans la bouche de Jésus. C'est comme si Jésus disait, à travers ce miracle, de changer l'eau en vin. Il dit, « Où mon visage se tourne, les arbres sourient et chantent de joie. Où je marche, le désert s'épanouit et fleurit. Où je lève mon sceptre royal, se manifeste inévitablement de la joie. » Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a parlé de la joie parfaite, qu'il donne une joie parfaite, qui parle d'une vie d'abondance? Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est plate. Hein? C'est plate, la vie chrétienne. C'est comme la petite fille, hein? Qui dit à son père, elle avait vu un âne, là, avec une face longue, avait l'air sérieux, elle dit, « Oh, papa, avec une face longue et triste comme ça, doit être un bon chrétien. » Est-ce que c'est la réputation qu'on donne les chrétiens, d'être triste, d'être marabout? Tu rencontres des chrétiens, ils sont jamais, jamais... Je comprends qu'il peut y avoir des épreuves dans la vie, on ne parle pas de ça, là. Il y a des moments de brisement, de déchirement, tu perds quelqu'un très cher, bien oui, on comprend ça, là. Mais quelqu'un qui est toujours marabout, quelqu'un qui critique tout le temps sa job, tu sais, un chrétien, là, critique tout le temps, il est réputé pour être le gars qui est toujours en train de chialer, ou une femme, ou un homme, toujours en train de chialer. C'est un chrétien. Non, non, ça ne marche pas, là, ça ne fonctionne pas. Tu es supposé être le plus heureux du monde, pas vrai? J'entends-tu des « amen »? Oui, ben oui, on comprend qu'il va y avoir des épreuves, on comprend ça. Mais la grâce de Dieu fait qu'à travers ces moments difficiles, il y a quelque chose de serein qui se passe dans ton cœur. En plus, tu seras toujours avec le Seigneur dans ces moments difficiles-là. Ce n'est pas bien connaître Jésus que d'être surpris à l'idée que Jésus se sert de son premier miracle pour faire un gros party. Alors, Jésus dit à l'homme qui a fait cette déclaration-là dans Luc 12, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit, « Tu as tout à fait raison. » Et là, il va raconter une parabole. Alors, Jésus est en train de dire, « Le royaume de Dieu est un grand banquet, mais ce n'est pas le genre de banquet que tu penses. » Habituellement, lorsque les gens invitent ou organisent un banquet, ce que tu veux, hein, dans ces milieux-là, genre d'affaires, ce réseau d'affaires-là, et le chef des pharisiens, c'est ce qu'il faisait, ils étaient réputés pour ça, et d'ailleurs, même aujourd'hui, on va retrouver ça. Tu vas inviter l'élite, les gens importants, etc., bâtir ton réseau d'affaires et tout ça. Et c'est l'endroit où tu veux faire des contacts. Tu veux les gens riches, célèbres, puis tu veux que les gens en parlent dans la ville. Alors, il y a eu un party, telle place, tu aurais dû voir qui était là, hein? Qui était là? Bien, c'est différent que le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, qui surpasse tous les banquets, ce n'est pas du tout le genre de banquet auquel on s'attend. Pour entrer dans ce party-là, là, ça prend de l'humilité. Pour y prendre part, ça prend de l'humilité. C'est complètement différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, par cette parabole que Jésus va raconter, Jésus nous montre que c'est uniquement les humbles qui peuvent tout d'abord entrer dans le royaume de Dieu, mais profiter aussi de la puissance du royaume et les bénéfices aussi du royaume de Dieu. Ça passe par l'humilité. Seulement les humbles peuvent recevoir les bénéfices du royaume. Et c'est le message que Jésus est en train de dire. Alors, on a besoin, vous et moi, d'humilité dans quatre domaines si on veut entrer dans le royaume de Dieu et prendre part au royaume de Dieu, bénéficier de tous les avantages du royaume de Dieu, de pouvoir marcher dans la puissance du royaume de Dieu. Il y a quatre domaines où nous devons exercer, pratiquer l'humilité. Premièrement, nous avons besoin d'humilité devant la lenteur du royaume. Et ça, je dirais qu'on n'est pas habitué à ça, d'attendre, d'avoir la patience, de suivre le calendrier de Dieu, se soumettre, s'humilier et se soumettre à l'horaire de Dieu. Parce que nous autres, on aimerait ça avoir tout de suite ce qu'on demande. On aimerait avoir le tout de suite. On est habitué à l'ère du micro-ondes où tu payes, ça se fait dans l'espace de 30 secondes. Et on devient frustré lorsqu'on ne reçoit pas ce qu'on demande à Dieu au moment où on l'a demandé. Et exactement comme Dieu, comme on l'a demandé. Vous avez remarqué qu'il y a un délai ici dans l'histoire de la parabole. C'est un party, c'est un festin, puis ça s'organise. Et l'hôte, celui qui invite les gens, est en train de préparer ce festin-là. Donc, il y a une période, il y a un épisode ici, il y a un délai ici. Alors, verset 16, Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et il invita beaucoup de gens. Donc, il est en train d'organiser, de préparer ce festin-là, tout comme le Seigneur Jésus qui est en train de préparer tout ce royaume qui va nous être prêt. Jésus a dit aux disciples, « Je m'en vais vous préparer une place, puis ça va être glorieux. » nous sommes dans cette période-là, entre juste avant le retour de Jésus-Christ, où le banquet va nous attendre. Ça va être les noces avec Jésus-Christ, ça va être glorieux. Alors, le royaume de Dieu est comme un festin, et le festin est en train de se préparer. On peut le sentir, on peut le toucher un petit peu, on a un avant-goût, et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre milieu le « déjà pas encore ». Le « déjà pas encore », ça, c'est une chose que tu devrais apprendre par cœur, mémoriser cette phrase-là, le « déjà pas encore ». Ça veut dire quoi? C'est qu'on a déjà certains bénéfices du royaume de Dieu, évidemment. On a le Seigneur en nous, il vit en nous, on a la puissance du Saint-Esprit, la joie que Jésus parlait, on a des dons reçus par le Saint-Esprit. Alors, tu pries, puis tu as cette intimité, cette communion avec Dieu, tu as la vie éternelle, une relation maintenant intime avec Dieu. Ça, c'est le déjà, c'est ce qu'on reçoit déjà du royaume de Dieu avec le Seigneur Jésus. Mais il y a un aspect, évidemment, au royaume de Dieu qui n'est pas encore arrivé, pas encore réalisé, c'est le pas encore. Donc, tu as le déjà pas encore. Ou le pas encore, c'est lorsque Jésus va revenir, où on aura la joie parfaitement, 100%, la douleur va disparaître au complet. Il n'y aura plus de limite par notre péché, à nos fautes. Ça va être la perfection même, où le royaume de Dieu va pleinement se réaliser. Le déjà pas encore. Mais il y a un élément au royaume qui n'est pas encore là, pas encore arrivé. Et ça va arriver justement au retour de Jésus-Christ. Alors, pour rentrer dans ce royaume, ça prend de l'humilité. Et on a besoin d'humilité devant la lenteur de ce royaume-là. Il y a des gens qui espèrent, tu sais, voir des choses glorieuses dans leur vie. Des fois, ça n'arrive pas comme ils s'attendent. Mais ça, c'est parce que c'est dans le pas encore. Tu aimerais être dans le pas encore tout de suite. Tu aimerais que le pas encore soit le déjà. Mais ça va venir. Alors, c'est pour ça que des fois, on se frustre, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il y a encore du mal dans le monde, comment ça se fait. Tu sais, je peux voir Jean-Baptiste qui est en prison. Pourquoi? Ils vont couper ma tête demain. Il envoie ses disciples voir Jésus. Jésus, je ne comprends pas. C'était le Messie, alors le Messie glorieux qui doit apporter le royaume et ramener ça à sa gloire. Comment ça se fait que je suis ici? Mais ça, c'est le déjà pas encore. Jésus n'est pas encore revenu. Il n'a pas enlevé le mal encore. Tout est là. Mais ça va venir. Dieu répond pas tout de suite, mon enfant. Alors, nous avons besoin de nous humilier, de nous glisser sous l'horaire de Dieu, lui faire confiance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est là qu'on a vraiment besoin de s'humilier devant Dieu. Il y a un autre domaine où nous avons besoin d'humilité, et c'est devant la gratuité du royaume. Et bon sang, combien de gens ne viennent pas à Jésus parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter que le salut, la vie éternelle nous est offert gratuitement, que Jésus a accompli le sacrifice parfait sur la croix. C'est suffisant, son sacrifice. On n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres pour essayer de gagner notre ciel. C'est une insulte à Dieu. Imagine-toi donc, tu m'invites à manger chez vous. Là. Et tu prépares vraiment là, pour ta visite. Rôti de bœuf et tout ça, Yorkshire pudding, et des patates et tout ça, les tartes aux pommes, crème glacée. Puis, ah, mon Dieu, merveilleux. À la fin du souper, tu as travaillé tellement fort, tu t'es préparé, tu as fait la commande la semaine et tout ça. Tout est prêt, le menu, tu es allé chercher ça, Ricardo, là, c'est vraiment la grosse affaire. T'sais. Là, à la fin du souper, c'est super bon. Après le souper, je te regarde, je dis, bon, j'aimerais te payer ton souper. Tu serais insulté. C'est vraiment insultant. Imagine-toi, c'est ma sœur qui nous a invités à son mariage. On s'en va dans le baccarat, puis on est dans cette pièce-là très intime. Et là, c'est 8 services. On commence, premier service, deuxième service, troisième service. Puis à un moment donné, pendant le repas, je sors ma glacière. J'ai emmené une glacière, puis je me suis fait des sandwichs au ballonnet. Puis là, je monte ça à ma sœur. Regarde, fait que là, je commence à manger mes sandwichs entre le troisième et le quatrième service. Je commence à manger mes sandwichs au ballonnet. Ma sœur serait insultée. Puis avec raison, elle serait insultée. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ma femme dirait? Ma sœur dirait. Qu'est-ce que ma sœur dirait? Ben, ma femme, je sais ce qu'elle dirait. Ouais. Mais ma sœur. Qu'est-ce que ma sœur dirait? Ma sœur dirait, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, tu ne comprends pas où tu es. Tu ne comprends pas l'ampleur. C'est un 5 diamants. Tu n'arriveras jamais, normalement, avec ta petite sandwich de ballonnée, arriver à ce qu'on t'a préparé ici. puis on t'a payé tout ce qu'on a fait pour toi. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Normand. Tu ne comprends pas la beauté, la qualité, la supériorité de ce qui t'a été préparé. C'est la même chose lorsque j'arrive puis je dis au Seigneur, le Seigneur est allé à la croix, il s'est offert en sacrifice. C'est un sacrifice qui est suffisant, c'est parfait. Et moi, j'arrive avec mes œuvres de sandwich au ballonné, puis je vais offrir ça à Dieu. Il dit, non, gars, je vais faire des œuvres. C'est comme dire, c'est passé, c'est beau ce que tu as fait. Ton sacrifice n'est pas suffisant. Je vais en ajouter, je vais emmener mes petites sandwichs au ballonné. Vois-tu, ça prend de l'humilité devant la gratuité de ce qui a été fait, ce qui a été préparé pour nous, le festin qui a été préparé pour nous, qui est la vie éternelle. Le sacrifice est parfait, complet, suffisant. Troisième domaine, nous avons besoin d'humilité. C'est devant sa simplicité. Le premier groupe de personnes qui ont reçu les invitations sont les bonnes personnes, c'est l'élite. Des gens populaires, des personnes clés qui font partie vraiment là, du réseau d'affaires, des gens d'affaires. Tu sais. C'est des personnes clés qui se font partie de vraiment de l'élite dans la société. Et là, tout d'un coup, ils vont se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir au party. Ils vont dire, première excuse, il y en a qui vont dire, écoute, j'ai acheté un champ, là, je peux pas, faut que je t'occupe. Deuxième excuse, j'ai acheté du bétail, je ne peux pas y aller. Et troisième excuse, c'est je me suis marié, je ne peux pas y aller. Et ce que Jésus est en train de montrer ici, c'est que ni les biens matériels, ni la famille devraient nous empêcher de venir au royaume de Dieu. Vois-tu? C'est le message qui est donné ici. Là. Un autre point qui est très important aussi sur le royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu porte souvent, tu regardes ça dans le monde, tu fais ceux qui font des spécialistes en mission, ils arrivent à la conclusion que le royaume de Dieu est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus ouverts lorsqu'ils vivent dans les personnes démunies, tout ça. Il y a comme quelque chose qui est là, on dirait que c'est des gens comme ça, qui vivent comme démunis qui viennent au Seigneur Jésus. Jésus l'a dit d'ailleurs, les riches, c'est difficile de venir au Seigneur quand tu es riche. D'ailleurs, c'est l'élite de la société qui voulait se débarrasser de Jésus. Ils l'ont même crucifié, n'est-ce pas? Alors, c'est difficile pour des personnes influentes de notre société de reconnaître, d'avoir cette humilité-là et de reconnaître qu'ils ont besoin. Quand tu es multimillionnaire, c'est difficile de reconnaître que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus, puis tu es pécheur, puis tu ne peux rien faire pour te sauver. Hey, c'est difficile, ça. Ça prend l'humilité pour ça. 1 Corinthiens 18 dit ceci, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Nous prêchons un Messie crucifié, dit Paul. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Alors, la puissance du royaume a tendance à toucher les démunis. Ils saisissent la grâce et la bonté de Dieu. Maintenant, heureusement, il y a quand même des gens très à l'aise qui viennent au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu pour ça. Mais Jésus l'a dit, c'est plus difficile. Nous avons tous besoin, vraiment, de cette grâce. Et on a besoin aussi de tendre la main envers ces gens-là, et les démunis, et les gens de la communauté, pour leur répandre cette bonne nouvelle, que Dieu prépare un banquet. Et s'ils veulent faire partie de ce beau banquet, ils ont besoin de venir à Jésus. C'est vraiment intéressant, le verset 23, comment il finit. Il dit « Afin que ma maison soit remplie. » Ça me montre la compassion des âmes de Dieu. Vois-tu? Dieu veut que sa maison soit remplie de gens qui vont se convertir à Jésus-Christ, vont venir à lui. Ça, c'est son cœur. Dieu révèle son cœur ici. Là. Quatrième domaine, nous avons besoin de nous humilier sous la priorité du royaume. Remarquez ce qui se passe ici. Il faut remarquer là, une chose, là, c'est que ces gens-là avaient été invités avant, là, puis ils avaient accepté l'invitation d'y aller. Ils n'ont pas dit non tout de suite, sans ça, les serviteurs ne seraient pas retournés pour dire que c'est prêt. D'accord? Donc, ils ont reçu les invitations d'aller, puis ils ont dit oui. Mais à la dernière minute, quand tout est prêt, quand le serviteur est retourné pour dire « Maintenant, c'est vraiment prêt, le festin est prêt, venez-vous-en », c'est là qu'ils ont dit non. Ils ont changé d'idée. Et ça arrive des fois. Et la Bible donne une autre belle parabole sur les quatre terres. Où il y a des gens qui vont dire oui à Jésus au début, mais il y a des épreuves, il y a des choses qui vont se produire, puis là, les gens vont lancer la serviette, vont tout abandonner. Donc, On a besoin de nous humilier devant la priorité du royaume. À l'heure du festin, verset 17, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Pourquoi? Pourquoi ils ont refusé? La vraie raison, là, c'est parce qu'ils croyaient que le banquet n'allait pas déranger leur routine. Ces personnes pensaient qu'ils pouvaient faire partie du royaume en ne changeant absolument rien de leur vie. Et c'est ça qui arrive avec l'Évangile. Mais Jésus dit, « Moi, je suis le roi, moi. Moi, je veux occuper la première place dans ta vie. Je veux être le premier. Mon royaume doit venir en premier dans ta vie. » Et on a besoin solennellement de se poser la question ce matin. Est-ce que je m'humilie devant la lenteur du royaume et accepter le plan de Dieu pour ma vie? D'accepter que des fois, ça ne tournera pas comme je l'espère. Ça va être plus long. Je ne recevrai peut-être pas ce que j'ai demandé. Ça, c'est de se soumettre à l'horaire de Dieu, à la lenteur du royaume de Dieu. Deuxièmement, est-ce que je m'humilie devant la gratuité du royaume? Est-ce que je me vois pauvre en esprit, désespérément besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que je m'humilie devant la simplicité du royaume, réalisant que je suis un grand pécheur en faillite devant Dieu? Matthieu 5 dit ceci, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, oui, ton sacrifice est parfait. Ton sacrifice est suffisant. Et on veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix. Merci pour ce salut gratuit, Seigneur. Alors, on te prie ensemble que lorsque tu ne fais pas exactement comme on s'attendrait et comme on espérerait, que nous puissions nous humilier devant toi, accepter ton horaire, ton calendrier, accepter ton plan, se soumettre, Seigneur, à ta volonté, avec joie d'ailleurs. On te prie, Seigneur, que tu puisses faire cette œuvre dans nos cœurs. Et s'il y a des gens ici, peut-être, qui cheminent en ce moment, qui se demandent si Jésus sera leur sauveur, on te prie que tu touches leur cœur en ce moment et que tu puisses ouvrir leur cœur et qu'ils viennent à toi. Comme dit ta parole, aujourd'hui est le jour du salut. On te prie, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre dans chacune de nos cœurs, que personne sorte d'ici comme il était, comme il est entré. Fais une œuvre extraordinaire dans nos cœurs. Seigneur, certains parmi nous, nous avons besoin de remettre notre vie en règle avec toi. Que tu redeviennes le roi de notre vie, le centre de notre vie, que tu sois au centre de notre vie, de notre volonté, que tu sois le maître, que tu sois le roi. On ne veut pas te traiter comme un serviteur. On veut t'honorer, te glorifier comme le roi de notre vie, Seigneur, comme le Seigneur des Seigneurs. Parce que tu as tout préparé, un grand banquet, un grand festin. Tu as tout fait ça pour nous, Seigneur, pour tes enfants. Alors, on veut, Seigneur, te plaire. On veut que notre vie t'honore parce que tu nous as tellement aimés.